Bonjour à tous, bonjour au nouveau, ceux qui sont revenus, peut-être qui étaient déjà là aux deux autres tables rondes précédentes. Bonjour Monica Sabolo, Isabelle Desesquel et Sylvie Germain, merci d'être avec nous. Je signale tout de suite, avant qu'il y ait le brouhaha de la fin, que vous pourrez poser quelques petites questions si on termine suffisamment tôt, donc je pourrais faire passer le micro, et qu'ensuite les auteurs, les autrices pourront vous dédicacer leurs livres sur leur stand. Vous avez tous, je pense, le plan avec la maison d'édition. Voilà, donc c'est dit. Les trois romancières qui m'entourent nous entraînent dans les abîmes du silence et jonglent avec l'ombre et la lumière. La perte et le souvenir des êtres aimés dessinent des zones floues. Par la grâce de la littérature, elles s'accordent le pouvoir de disséquer l'âme humaine. Elles vont loin, même parfois très loin, dans l'art qui est le leur, pour tenter de comprendre le ressort suicidaire ou la mécanique meurtrière. Peu importe le mobile, sont-ils fous, sont-ils malheureux, illuminés, terroristes, combattants au service d'une juste cause? Finalement, ce qui intéresse Monica Sabolo, Sylvie Germain et Isabelle Desesquel, c'est le moment de bascule, l'instant où ces âmes damnées glissent vers la zone de non-retour, se laissent happer et passent à l'acte. En sont-ils d'ailleurs eux-mêmes conscients? Et pour nous, lecteurs, pour vous, pour moi, que réveille cette démonstration de la noirceur? Doit-on s'horrifier de l'acte ou au contraire essayer de comprendre et de pardonner? Voici trois romans en équilibre sur une corde sensible. Sylvie Germain, j'ouvre le bal avec vous.
Oui.
Aux yeux de nombreux lecteurs, vous êtes déjà connue comme la grande romancière de la rédemption. Donc c'est vrai que là, j'en parlais déjà dans l'introduction, mais c'est quelque chose qui vous suit dans tous les livres que vous avez pu publier jusqu'ici. C'est une dialectique entre l'ombre et la lumière qui vous fascine peut-être depuis vos études de philosophie, quand vous étiez élève de Emmanuel Lévinas. Et il n'est pas anodin de rappeler le sujet de vos mémoires de maîtrise qui portaient sur la notion d'ascèse dans la mystique chrétienne, qu'on retrouve aussi dans ce roman, et le fait que votre thèse de doctorat était sur le visage humain. Alors ça, je l'ai retrouvé en faisant mes recherches pour cette rencontre. J'ai trouvé ça assez fabuleux que justement le début de votre roman se passe dans une soirée où le couple qui invite les autres invités demande à tout le monde de venir déguiser. La thématique, c'est le métropolitain parisien, donc le métro, et chaque invité doit être déguisé d'une station de métro. Et ensuite, le jeu, c'est de deviner qui est déguisé en quoi. Donc, entre le visage, qui était déjà votre thème de doctorante, et cette scène inaugurale, est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que c'est moi qui extrapole complètement?
Non, mais c'est fait pour extrapoler. Le thème du visage, oui, c'est quand on parle du visage au sens de Lévinas, c'est l'apparition de l'autre dans toute sa dimension d'altérité, justement, ce que ne vont absolument pas voir les terroristes. C'est impossible. Au contraire, il y a le fameux texte de Camus, quand les terroristes voient celui qui voulait assassiner, mais accompagné de sa femme et ses enfants, il ne peut pas. Parce que ça lui donne justement ce visage humain, cette humanité. Et soudain, son ennemi de classe, il ne peut plus l'abattre. Il pourra l'abattre quand il le verra seul, devenu presque concrétion presque du pouvoir et donc de sa haine. Et ce qui est intéressant dans le travail qu'a fait Monica Sabolo, c'est de voir quand même la froideur au bout d'un moment, comme si ces personnes, en plus c'est vraiment moi encore, plus de ma génération, j'y étais très sensible, j'ai connu des gens qui étaient proches de ça. Et j'ai pu voir comment il y avait un aveuglement, pour le coup, un terroriste, mais comme un soldat. S'il doit tuer, quelqu'un qui a décidé de tuer ou à qui on a donné l'ordre de tuer ne doit en aucun cas considérer l'autre dans sa dimension de visage. C'est parfaitement et pas le bon mot, totalement anti-lévinassien, c'est-à-dire anti-biblique, que ce soit le premier ou le second testament. L'autre est nié en tant qu'être regardé dans les guerres, surtout les guerres génocidaires, on dénature complètement l'autre, on lui nie sa dimension humaine. À chaque fois, on entend les mêmes termes, que c'était sous le nazisme, que c'était pendant les tueries atroces, le génocide qui est au Rwanda, ou ce qui se passe maintenant, le vocabulaire employé en Russie par Poutine et consorts à l'égard des Ukrainiens. On les déshumanise, on leur donne des noms d'animaux, etc. Et finalement, là, c'est très bien montré dans le livre de Monica Savolo, il y a quelque chose de glaçant. Dans mon roman, c'est pas du tout ça, c'est au contraire même pas un salaud ordinaire, un pauvre, enfin quelqu'un d'ordinaire qui porte une blessure, comme la plupart des gens portent parfois des blessures très très profondes, mais très enfouies pour ne pas en souffrir. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont quand même, en un sens, parfois manipulés par cette douleur très, très enfouie. Et puis, on ne sait pas pourquoi, un jour, au détour d'un mot, là, ce sont des échanges entre les invités, quelque chose va déclencher le réveil de cette douleur. Et soudain, quelqu'un ordinaire, comme vous et moi, peut passer à l'acte. C'est vraiment pris... vous voyez, c'est comme s'il y avait un démon qui sortait et la personne n'est même plus maître d'elle-même, maîtresse d'elle-même. C'est pas du tout le cas des terroristes. C'est pas non plus le cas de ceux qui commettent des actes infâmes sur les enfants. C'est encore différent. À chaque fois, il y a quand même toute une préparation en amont, une déshumanisation qui est pas du même ordre, mais quand même une forme de déshumanisation. Donc à chaque fois il s'agit bien de la violence. Je crois que franchement le thème du mal, de la violence qui nous mine, qui nous ronge, qui nous pose problème, ça reste un mystère que celui du mal, celui du bien aussi, hein. Mais il échappe à la littérature finalement, ou il se glisse autrement. Et c'est pour ça aussi qu'on écrit. On sait très bien qu'on n'aura jamais les réponses, mais on écrit pour essayer d'avancer et peut-être pour essayer de calmer les propres démons qu'on porte en soi. Et c'est pour ça qu'on écrit et qu'on lit. Voilà.
Alors, Sylvie Germain, dans votre roman, pour ceux qui n'ont pas encore lu votre livre, un homme, en effet, va être tué à la fin de cette soirée. Cette soirée qui est extrêmement surréaliste à cause des déguisements, à cause de l'alcool, à cause d'une fête qui échappe au temps et qui peut-être, comme vous le dites, réveille un démon qui ne se serait pas réveillé peut-être dans un autre lieu ou avec des personnes qui n'auraient pas été grimées. Et vous prenez le temps d'installer cette fête parce que vous savez, vous, comme dans une pièce de théâtre grecque, qu'à la fin, il y en aura un de moins. Il y aura une personne qui ne sera plus là, qui se retrouve dans la rue, qui est tombée du balcon. Et on ne sait pas véritablement si elle a été poussée ou si... l'homme, puisque c'est Gaspard, il est tombé par mégarde en voulant rattraper son portable peut-être. Et puis, 4 mois plus tard, même scène, un deuxième enterrement, un deuxième ami, Cyril cette fois, du même groupe qu'on enterre à nouveau. Et là, les personnes ne se regardent plus de la même façon. Là, il y a un malaise aussi, il y a un doute se faufile dans le groupe.
Oui, quand il y a répétition de quelque chose qui a été traumatisant avec une certaine ressemblance, oui, il y a une crainte qui vient. Ça aussi, ça fait partie, comme dans les guerres, les épidémies, etc. Et c'est comme ça aussi. Bon, là, c'est pas du tout le thème, mais vous voyez bien, dès qu'il se passe quelque chose d'inquiétant, très vite, les gens fantasment. Et puis, il y a toute cette part qu'on a pu voir avec la récente épidémie, les gens qui sont méfiants, les théories du complot, etc. Bon, mais c'est pas du tout le thème du livre. Mais il est normal qu'une certaine anxiété se développe, comme à Paris ou dans d'autres villes, quand il y avait eu beaucoup d'attentats, dans le métro, dans la rue... Les gens étaient méfiants. On avait des réactions parfois de méfiance dans le métro. On se regardait... D'habitude, on ne se regarde pas particulièrement. Les gens s'épiaient. Et si jamais quelqu'un laissait un sac, c'était la panique. Donc voilà, c'est une situation qui va créer après ce genre de réaction. Oui.
Ce qui vous intéressait en écrivant ce livre, c'était de comprendre ce qui peut amener un geste aussi fatal, aussi tragique et non-retour, qui va mener donc... à tuer 2 personnes et le deuxième meurtre qui va être quelque part pour réparer le premier. Vous vouliez vous glisser dans la tête d'une personne. Est-ce que vous allez dire qu'il est fou ou qu'il a été blessé lui-même?
Bah, le propre d'un romancier et de romancière, c'est essayer de... C'est pour ça que parfois ça m'agace un petit peu de vouloir revendiquer autrice, auteur. Oui, sur certains plans, d'accord. Mais pendant qu'on écrit, je ne sais pas comment vous le vivez, mais moi je ne pense plus tel âge que je suis, une femme, blanche, ceci, cela. Bien sûr, j'écris à partir de ça, de ce que je suis, de mon histoire. Mais ce qui nous intéresse en tant que... Quand on plonge dans l'art du roman... C'est vraiment justement d'aller découvrir d'autres possibilités, d'autres vies que soi-même, d'autres possibilités d'être et aussi des risques qu'on porte en soi. Parce qu'on porte tout, le meilleur, le pire, la bonté, la méchanceté, la peur, le courage. Simplement, nos vies ordinaires nous épargnent de tout ça. Mais on ne sait pas comment on va réagir devant l'extraordinaire. On ne sait pas. Et parfois, on est surpris. Par soi-même, par les autres. Et c'est ça l'intérêt du roman, c'est d'aller fouiller, toujours fouiller dans... Je cite souvent le livre de Kundera, L'art du roman, un essai vraiment très intéressant sur ce que c'est que l'art du roman. Et il dit que les personnages de roman, qu'on invente parfois complètement... Il appelle ça un ego expérimental, ego E-G-O. C'est une manière d'aller explorer voilà, ces multiples possibilités que l'on porte en soi. Et alors, on peut le faire par la totale fiction, ce qui a été mon cas. On peut le faire en jouant entre la fiction, et c'est ça qui est intéressant dans vos deux livres. C'est que il y a.
Chez Isabelle Desescales, oui, il y a deux histoires en parallèle.
Chez Isabelle, il y a à la fois. Vous annoncez les choses, les faits. Le biographique et pour le mettre peut-être à la fois à distance et plus en valeur, la fiction. Vous refictionnez à partir de... Il y a les deux aspects et c'est assez étonnant comme processus. Et puis chez Monica Sabolo, là c'est quand même... Il y a à la fois le privé aussi la douleur de l'enfance et puis il y a une enquête qui est... très très poussé sur quelque chose qui a eu lieu, des personnages qui sont encore en vie, que vous êtes allé voir, chercher, interroger. Donc vous voyez, le roman il est multiforme et c'est ça qui est extraordinaire, c'est cette liberté du roman. Il peut être de totale fiction comme il peut être comme ça de construction avec les faits divers, avec l'actualité, avec sa propre vie. Enfin voilà, le roman c'est ouvert à tout.
D'ailleurs, Monica Sabolo, il y a une phrase de Sylvie Germain que j'aimerais vous appliquer. C'est quand vous avez dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi, de revenir à l'essence du geste. Parce que c'est ce qui a motivé l'écriture de ce livre, d'essayer de vous mettre dans la peau de ces cinq membres d'Action Directe, puisqu'il s'agit, dans la vie clandestine, de retracer en fait, ce groupe d'extrême-gauche et de comprendre...
Je ne savais pas très bien ce que je faisais en fait au départ. Vraiment, j'ai écrit ce livre presque entièrement dans le noir. C'est-à-dire que je savais que ces deux jeunes femmes qui attendent un patron en 1986 sur un banc pour la battre de sang-froid, qui attendent donc Georges Besse, le patron de Renault, et qui le tue, ça me semblait complètement saisissant. Je me disais, mais comment en arrive-t-on là? Que cherchait-elle? C'était une question aussi simple que celle-là. Et j'ai été hantée par cette histoire. Et j'ai mis longtemps à comprendre
vous
que...
Vous avez été hantée depuis quand?
Depuis le début. Depuis le début. Dès que j'ai entendu cette histoire, ça a commencé à me travailler. Puis j'ai cherché des choses sur elle, sur ces deux jeunes femmes qui avaient 27 et 29 ans à ce moment-là. Et j'ai trouvé très peu de choses. Et le blanc, le vide, c'est je crois aussi là où l'écrivain plonge. Moi, ma vie est faite de blanc, ma vie est faite de vide et de silence. Donc quand je reconnais ça... ailleurs, dans le réel, c'est là où je vais. Donc tout de suite, ça m'a prise. Mais j'ai mis longtemps à comprendre que ça résonnait avec des choses très très personnelles. Et c'est mon histoire et la mémoire d'un traumatisme d'enfance et d'un inceste qui sont remontées. Que je m'en souvenais, mais là, il y a des choses qui sont revenues de façon extrêmement aiguë. Et j'ai compris que c'était un livre sur la question de la violence et sur la question du pardon. La question de la responsabilité de ces actes. Et j'ai été extrêmement touchée par votre texte, Sylvie Germain, justement sur le mal et sur cette étrangeté, je ne sais pas qui... L'étrangeté de votre texte permet de dire des vérités complètement transcendantes, il me semble, sur le bien et le mal, sur l'ombre et la lumière. Et cette question que je me pose dans le texte me semble la question qui traverse votre texte également, qui est « Peut-on répondre à la violence autrement que par la violence ?» C'est-à-dire que la violence est souvent, il me semble, une réponse à une immense blessure. Elle est à la hauteur de la violence qui a été subie. Et ma question, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec sa colère? Qu'est-ce qu'on fait avec son désespoir? Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas, avec les dettes que la vie a contractées à notre égard, nos chagrins, nos impuissances, toutes les injustices qu'on a traversées, ces choses-là où il n'y a pas réparation, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté, on n'est pas entendu, parfois on ne le formule même plus. Comment fait-on avec cela? Et là, chez ces deux jeunes femmes qui tuent, il y a effectivement l'effacement de l'autre, c'est-à-dire que l'autre devient un symbole, il n'existe plus. Mais il me semble que c'est quand on est débordé par une colère, par quelque chose qui aveugle, et l'idéologie aussi qui fait que... J'ai également remarqué que le passage à l'acte, alors là c'est très différent dans nos textes, là c'est un passage à l'acte collectif. Donc dans le collectif, oui, il y a une radicalité.
Il est important de dire qu'aucune n'a avoué, enfin aucun d'ailleurs, ils ont été condamnés collectivement.
Oui,
on sait
ils ont
toujours pas qui a tiré.
Non,
ce
c'est pas qui a tiré, donc c'est collectif, mais personne n'a jamais semblé émettre le moindre regret, le moindre remords ou demander pardon en 40 ans. Ça, de pas douter. Je veux dire, cet homme est mort, d'autres gens sont morts, et ça n'a servi à rien. Et même si ça avait servi à quelque chose, c'est un indépassable. Quand les idées sont plus importantes que les hommes, c'est insupportable. Et il y a aussi quelque chose qui est dans la radicalité du geste collectif. C'est-à-dire que pour passer à l'action, il me semble que parfois il est nécessaire de chosifier, d'objectiver l'autre. Si on commence à se mettre à sa place, si on commence à rentrer dans la nuance et à comprendre que les choses ne sont ni noires ni blanches, qu'il y a de l'ombre et de la lumière à la fois, on ne passe plus à l'acte. Et ça, c'était la question aussi. Comment fait-on avec cela? Et j'avais besoin de... Ouais, c'était une recherche de la vérité, et je crois que j'avais besoin que quelqu'un, étant donné que mon père ne m'avait jamais demandé pardon, qu'il était mort, j'avais besoin qu'un homme s'assoie en face de moi et reconnaisse l'existence de la souffrance qu'il avait causée. C'était ça, en fait, que je cherchais.
Et vous avez l'impression de l'avoir trouvé? Ou c'est une
oui, je l'ai trouvé.
Insoluble.
Je l'ai trouvé. J'ai trouvé Régis Schlecher, qui était considéré comme le plus dangereux, celui qui tuait sans état d'âme, hein, par la police à l'époque, s'est assis en face de moi et m'a dit « Oui, j'ai compris, après toutes ces années, et d'ailleurs il m'a parlé du texte de Camus, Les Justes, justement, il a dit « Je ne l'ai pas lu assez tôt », il dit « Je ne savais pas à l'époque », parce que lui, il avait des rêves de grandeur, de changer le monde, de plus de justice sociale. C'est ça aussi qui est déchirant, c'est que je me dis « Comment part-on sur une volonté de lutter contre la violence de la société, pour finir par être plus violent soi-même ?» Et il m'a dit « J'ai mis longtemps à comprendre qu'au bout de larmes, il n'y a pas la justice, il n'y a pas la libération de la classe ouvrière, il n'y a pas un monde meilleur, il y a la mort. » Déjà, quand on a fait 25 ans de prison, de reconnaître cela, ça paraît être simple, et finalement, mais je crois que c'est très très compliqué. Donc il l'a fait, il a eu ce courage-là.
Et quand vous commencez la vie clandestine et que vous écrivez d'un côté votre quête aussi sur votre enfance, sur votre douleur et sur la clandestinité qui existait aussi chez vos parents, toutes ces années manquantes, pour reprendre le titre de Jean-Noël Pancrazy que j'ai eu juste avant vous, sur ces années difficiles qu'on finit par oublier, qu'on finit par mettre au fond du placard et on ne veut pas s'en souvenir, vous n'aviez aucune idée de l'objet livre que ça allait donner, c'est-à-dire que ce double récit qui oscille entre fiction et enquête.
Ah non, j'avais aucune idée et je pensais que j'allais écrire un texte dont je me serais extraite. C'est-à-dire que je voulais écrire réellement le texte le plus éloigné de moi de tous. Je pense que je me suis bernée, je pense que j'ai baissé la garde. Le fait de me dire que j'écrivais sur Action Directe, sur quelque chose soi-disant très éloigné de moi, alors qu'en fait, ça ne cessait de résonner, mais comme des échos qu'on a dans un rêve éveillé, parce que c'était sur le mal, sur le pardon, sur la jeunesse aussi, sur les gestes que l'on commet et qui bouleversent toute notre vie. Tout ça, je l'ignorais. Les souvenirs ont commencé à remonter à la surface comme un corps gorgé d'eau qui remontait des profondeurs. Et je me suis mise à écrire. Et oui, la violence et le pardon et le fait que ma possibilité ou non de pardonner mon père, la vie clandestine, la fiction, le réel, et c'est ce qui m'a vraiment intéressée dans votre texte, Isabelle Desesquelles. J'ai trouvé ça très intéressant, ce travail de réinventer le réel, la fiction. Sur la forme, ça m'intéresse. Donc, il y avait cette espèce de tresse. Voilà, j'ai créé une sorte de tresse entre mon imaginaire, les années Action Directe et ma mémoire.
Alors, Isabelle Desesquelles, je voudrais vous citer pour commencer, avant de discuter avec vous, justement, puisque vous avez cette phrase sur les années manquantes aussi qui, chez vous, peuvent faire écho. L'impensable, dites-vous, on l'écrit de toute façon. Et quand je vous ai lu, là, je me suis dit, on peut tourner autour, on peut attendre des années, mais là, vous dites que finalement, un jour, ça finit par surgir et qu'on finira par l'écrire. Et avec un peu d'imagination, on en fait ce que l'on veut, ce que l'on peut. Te chercher, te brûler, t'inventer, sous mes yeux, je l'ai fait, livre après livre. Et c'est vrai que pour qui vous connaît, vous avez ressassé cette thématique du deuil, puisque vous avez perdu votre maman très jeune. Et dans ce roman, vous inventez une famille qui n'est pas vraiment la vôtre, mais qui lui ressemble. Vous changez, alors je ne dirais pas quoi, mais vous bougez quelque chose pour que ce soit un petit peu différent, que ce soit peut-être un petit peu moins douloureux. Ou alors c'était pour expliquer.
Non, alors pardon, je reprends le mot ressasser. J'ai pas du tout le sentiment d'avoir ressassé, au contraire. J'ai livre après livre, mais je vais reprendre des mots que vient de dire Monica Sabolo, que j'ai retrouvé effectivement dans son livre. Le processus d'écriture de ce texte, de Là où je nous entraîne, il est le suivant. Je décide, après plusieurs romans, qui se penchent effectivement sur la disparition, l'enfance arrachée, de partir dans une histoire que je qualifie, alors que je commence à y réfléchir, de roman corse, une famille en Corse, un jour d'été. Ils sont quatre au début de la journée, à la fin de la journée, ils seront deux. Et alors que je me penche vers ces êtres de fiction, vers cette famille, les parents et deux petites filles, les deux sœurs, que je leur demande de se livrer à moi et de me dire qui ils sont, il y a une sorte de deal, d'échange qui se fait, qui me trouble encore, hein, tous ces mois qui ont passé depuis que c'est arrivé. Ce sont les personnages de fiction qui m'ont intimé d'écrire un autre jour d'été, un jour d'été réel, celui de mes 8 ans. Nous sommes 4 au début de la journée, une famille, mes parents, ma sœur et moi, et nous serons 3 à la fin de la journée. Et donc, ce qui était un trouble, c'est que ce soit donc les personnages de fiction qui étaient au bord d'être écrits, qui m'ont réclamé d'écrire ce jour autour duquel je tournais livre après livre, que cette enfance arrachée qui a été la mienne, puisque ma mère, effectivement, a mis fin à ses jours, que ça reste un événement brutal, brutal parce qu'on perd son parent, qu'on a 8 ans, qu'on n'a pas été choisi face à la mort, que son parent se donne, mais ô combien violent, parce que cet acte-là crée un silence qu'on peut retrouver dans celui que vous avez vécu, ô combien, que j'ai retrouvé, un silence qui est celui de, on va dire, d'une perte encore plus profonde, atroce, et l'enfant que nous sommes ne peut pas se défendre face au silence imposé par les adultes. Et dans le cas de quelqu'un qui met fin à ses jours, la culpabilité, je dirais, dévorante, indépassable, parfois qui traverse des générations et des générations, sans que ce couvercle qui va doublement, je dirais, enterrer la personne qui n'est plus. Et là, vous êtes un enfant, vous n'avez pas les mots, Vous ne pouvez pas faire pleurer ceux qui vous élèvent. Comment vous faites ? Et ce que j'ai fait à ce moment-là, ce qui s'est enclenché et qu'on retrouve dans Là où je nous entraîne, a été, on va dire, quelque chose qui relève, je dirais, de quelque chose, certainement d'un acte poétique. En tous les cas, c'est une enfant qui l'a eue, celle que j'étais. C'est de ne pas laisser tout à fait disparaître la petite fille qui voit son enfance qui lui est ôtée et son innocence qui lui est enlevée, et de la garder à l'intérieur. Elle est là pendant que je vous parle. Je lui ai donné un nom. Elle s'appelle l'enfantôme. Et depuis 46 ans, c'est avec elle finalement que je suis dans une sorte de communion, d'échange, que nous avons tous les auteurs de monologues intérieurs. D'où viennent, ce que disait Sylvie Germain tout à l'heure, d'où viennent les romans du réel, des faits divers, de personnages inventés. Et donc, avec cet enfantôme, j'ai écrit ces livres et surtout, dans celui-là, je me suis fait violence. Je rejoins encore ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire, on ne le décide pas du tout, on ne le choisit pas. Au contraire, on croit qu'on va encore pouvoir raconter sans tout dire. Et puis finalement, voilà, l'écriture, le texte, en tous les cas pour mon cas, ce qui est quelque chose qui me trouble, l'imagination m'a dicté le réel de l'écrire.
Et je vous pose une question qui va peut-être vous choquer, je suis désolée, mais est-ce que vous pensez que ce décès de votre maman a créé, en créant l'enfantôme, a créé aussi l'écrivaine que vous êtes aujourd'hui ? Est-ce que vous auriez écrit s'il n'y avait pas eu cet événement ?
Alors ça ne me choque absolument pas, ça choquerait peut-être des très proches, mais je l'écris un moment dans le texte, j'écris que voilà, c'est un immense paradoxe et parfois une forme certainement aussi de culpabilité profonde. Ça va vous choquer peut-être, mais presque je ne peux pas la bénir d'avoir fait cela, mais en agissant ainsi, elle m'a donné ma vie. Elle m'a donné,
elle
m'a donné
ma vie. Et elle vous accompagne sans cesse aussi.
Pardon ?
Elle vous accompagne sans cesse ? Si on peut le voir de manière plus positive, c'est-à-dire
mais
en écrivant.
Pour moi, c'est pas plus positif. C'est-à-dire, elle m'a donné ma vie, mais c'est merveilleux. Mais vraiment, c'est-à-dire, ça peut pas être plus positif. C'est merveilleux. Écrire, c'est merveilleux. S'être tournée vers les livres, oui, le drame est là, oui, la tragédie est là, mais s'être tournée à ce point vers les livres, avoir décidé que toute une existence était dédiée aux livres et à leurs auteurs, au-delà de l'acte d'écrire. C'est merveilleux et c'est un événement heureux, finalement.
Sylvie Germain, est-ce que vous comprenez cet enfantôme qui accompagne Isabelle Desesquelles, vous qui, dans votre œuvre, êtes aussi accompagnée par une certaine forme de foi?
Tous les écrivains, je pense, ont un enfantôme. Toutes les personnes qui sont là, même des jeunes, mais ils ne s'en rendent pas compte quand ils sont très jeunes. Et plus on avance en âge, plus il reste toujours en nous un enfant plus ou moins consolé. Et ça me fait penser à Bernanos. Il y a, à la fin de son introduction au Grand Cimetière sous la Lune, il y a un texte mais magnifique, et il dit que le jour de sa mort, il évoque tous les personnages importants qu'il a créés. Il espère qu'ils le précéderont dans l'entrée dans la mort, mais devant cette petite armée de personnages qui ont été si importants pour lui, dans lequel, bien sûr, il a projeté aussi beaucoup de ses passions, de ses tourments, etc., se tiendra l'enfant qu'il fut. Pour lui, le thème de l'enfance, de toute façon, est fondamental dans l'œuvre de Bernanos, et lui-même se réclamait toujours de cet enfant. Et je pense qu'on travaille, et il n'y a pas que les écrivains. Parfois, quand on se penche sur le travail de peintre, de musicien, enfin dans divers domaines, on se rend compte, quand ils parlent, que certaines choses très importantes dans leur inspiration, c'est venu de leur enfance, et souvent du lien à la mère, parce que bon, les enfants sont souvent en compagnie de la mère, et selon les occupations que pouvait avoir la mère. Je me souviens de ce peintre d'origine hongroise, Simon Antai. C'est un peintre qui fait des pliures. Et un jour, j'ai vu dans un texte qu'il a, ou dans une interview, il disait, il se souvenait quand il était tout petit en Hongrie, les femmes, donc sa mère, repassaient avec, vous savez, ces gros fers à repasser d'autrefois, des tissus, des tabliers, mais les repasser, repasser jusqu'à ce qu'un tissu très ordinaire, parce que ce n'étaient pas des gens riches, prennent, à force d'être repassés, etc., prennent une texture ou plutôt une brillance de satin. Et ça le frappait, et avec tous ces systèmes de plis et tout. Et on trouvait de ça, effectivement, ça avait déjà en amont nourri son imaginaire, lui, de peintre, enfin de plasticien. Et on peut entendre la plupart d'artistes, et je vous dis, quel que soit le domaine dans lequel ils vont créer, il y a en amont toujours des souvenirs d'enfance qui peuvent être heureux, qui peuvent être beaux, qui peuvent être traumatisants, parce que là, c'est quand même l'extrême de perdre sa mère ou un père quand on est enfant, ou de subir ce qu'évoque Monica Sabolo dans son livre. Donc, ça peut être, vous voyez, du plus beau et du plus doux, du plus émerveillant. On garde une nostalgie d'émerveillement qu'on a connu enfant. Les plus grands émerveillements, c'est dans l'enfance qu'on les connaît, parce que comme on ne connaît rien encore, tout va nous émerveiller, tout va nous étonner, mais tout peut aussi nous effrayer et nous terroriser. Donc, c'est ces émotions portées à incandescence dans l'enfance, après, qu'on laisse au fond de soi, mais qui nous nourrissent et qui font que, oui, après, vous dites, c'est les personnages, c'est la fiction qui vous a fait revenir, mais il n'y aurait pas eu ces personnages et cette fiction s'ils n'avaient pas été eux-mêmes nourris par ce qui vous a blessé, ce qui a créé ce chagrin inconsolable en vous. Vous voyez, on finit par ne plus savoir, comme l'œuf, la poule, qu'est-ce qui est à l'origine. Et à la limite,
peu importe. Ce que je dis, bien sûr, je n'oublie jamais que ces personnages de fiction, je le dis d'ailleurs dans le livre, je l'écris, évidemment, in fine, c'est moi, bien sûr. Ces personnages de fiction n'existent pas et ne sont pas écrits si je ne les écris pas. Mais c'est par eux que, c'est par eux que la possibilité, c'est pas un désir, c'est pas une volonté, mais la possibilité d'être une voix VOX juste pour dire, pour enquêter aussi, puisque ça a été une enquête après 46 ans de silence, 46 ans de tabou, qui touche, me semble-t-il, pour en revenir à ce que vous dites, oui, bien sûr, dans cette salle, et chacun d'entre nous porte en soi l'enfant qu'il a été. Et je pense que plus on vieillit, plus on se rapproche de la fin, plus l'enfant, finalement, se blottit en nous, trouve sa place, nous réchauffe ou crie. Et de la même façon, pour moi, il était évident qu'en écrivant, l'autre facette de là où je nous entraîne, c'est-à-dire non pas le roman corse, mais ce que j'appelle à la source, d'où viennent les personnages de fiction et d'où vient cet autre jour d'été réel, en me penchant vers eux, en me penchant sur eux, j'étais dans quelque chose qui était finalement la possibilité aussi peut-être d'écrire d'où vient un livre, cette alchimie de l'écriture, comment, évidemment, ça n'est pas un copier-coller, comment les deux histoires sont différentes et comment, en écrivant le roman, j'ai pu résoudre ce qui était tu pendant 46 ans, c'est-à-dire les dernières heures d'une femme. Et ces dernières heures, elles ont été ligotées dans un silence dont il était peut-être important, oui, de l'écrire, pas parce que c'était mon histoire, mais parce que ça peut être en résonance avec ce qui touche ô combien les familles, ces tabous, ces non-dits dont on hérite, c'est la mémoire archaïque avant même de naître, qui peuvent parfois être un héritage lourd et surtout que l'on transmet. Donc il y avait peut-être cette possibilité que cette chaîne de transmission et d'omission, elle devienne un livre.
C'est un vrai point commun entre vos deux romans, Monica Sabolo et Isabelle Zeskel, c'est cette enquête sur vos propres parents. Sur ce qu'on a voulu vous cacher, sur ces secrets d'enfant, sur cette photo qui est cachée en haut d'une armoire qu'on retrouve à l'occasion d'un grand ménage, sur ces photos, ces dates qui ne correspondent pas, cette maternité qui est un petit peu obscure.
Oui, je suis très sensible à ce que dit Isabelle sur la rupture d'une transmission. Ça, c'est vraiment la sensation que j'ai eue aussi à travers ce livre. C'est quelque chose qui s'est arrêté dans le silence, le mensonge. Parce que moi, il y avait une problématique d'identité. Puisque j'ai découvert presque. Je l'avais découvert quand j'avais 15 ans, mais je ne l'avais pas vu parce que par loyauté filiale. Mais en réalité, je n'étais pas la fille de mon père. Et je suis née en Italie, à Milan. J'ai commencé par parler italien. Et ensuite, ma mère a déménagé en Suisse. Elle a rencontré mon père adoptif. Et là, on m'a dit, cet homme est ton père. On a arrêté de me parler italien et on m'a parlé français. Donc, on a créé ma légende comme une légende d'agent secret. Sauf que, normalement, un agent secret connaît la vérité. Moi, c'était le contraire. Tout le monde savait, puisque cette jeune femme, ma mère, était arrivée avec une petite fille de 3 ans. Donc, voilà, tout le monde savait que je n'étais pas la fille de cet homme, mais moi, je ne le savais pas. Donc, il y avait ce mensonge et ce silence. Et effectivement, ce silence, dans les familles, on ne peut pas se dresser contre le silence. C'est absolument impossible. Et j'ai essayé de remettre les choses à leur place, de travailler autour du blanc. Mais surtout, je pense que par le livre, par la transformation de la littérature, quelque chose s'est arrêté, net, qui ne se transmettra plus. Je crois beaucoup aux passagers clandestins qui passent d'une génération à l'autre. Et je pense que c'est terrible parce que souvent, on se pressent quelque chose, mais on ne peut pas le saisir parce qu'on ne le sait pas. Donc on combat un ennemi invisible. Et je trouve ça terrifiant et une vague sensation, une émotion quand des choses sont évoquées, quelque chose qui vous parle, ça résonne, mais c'est tout. Voilà, et moi, je viens tellement du silence, comme les gens d'Action Directe viennent du silence, c'est des gens qui ne parlent pas, qui ont vécu dans la clandestinité, dans les fausses identités. Voilà, c'est tout ça qui s'est joué au moment où je me suis intéressée à leur histoire. Je l'ignorais, mais c'est de la même façon, ce sont mes personnages et le réel qui m'a permis d'ouvrir le couvercle de la boîte noire.
Et dans cette double enquête qu'est la vie clandestine, puisque vous êtes aussi journaliste, vous avez mené l'enquête sur, à partir d'archives, en interviewant des personnes, les membres qui étaient encore vivants que vous avez pu rencontrer. Finalement, vous parvenez à rencontrer à la fin du livre Nathalie. Quelle est la partie la plus difficile finalement? C'est l'enquête sur soi, l'enquête sur sa propre famille ou l'enquête quand même qui a été assez rude
Rien n'a été difficile. C'est rien. Étonnant. Hein. Ce livre, je pense que je le portais en moi depuis tellement longtemps.
Les portes s'ouvrent, c'est vrai, de manière assez incroyable. C'est-à-dire que
ça a été
tout
fluide.
Tout le monde essayait de les rencontrer. Tout le monde essayait d'avoir Eliette Bess. Tout le monde essayait d'avoir.
Il y a eu quelque chose qui s'est fait. Je pense que ma sincérité et d'une certaine façon ma naïveté vis-à-vis de ces mouvements d'extrême gauche qui m'étaient tout à fait étrangers, étonnamment. Ça m'a servi. Il y a eu quelque chose de l'ordre de la confiance. Et tout s'est enchaîné. C'est comme si tout était là. C'est vraiment. J'ai passé une vie à m'approcher de cet endroit, de livre en livre, une ligne, puis quelques lignes de plus, tourner autour avec la fiction, etc. Je crois que là, c'était le moment. C'est comme une pierre qui aurait été polie pendant toute une vie dans un torrent et qui pouvait être déposée là.
Alors, toutes les trois, vous avez eu des prix littéraires. Vous étiez sur les listes du Goncourt, du prix Goncourt, et c'est vrai que là je passe à cette question parce que on va bientôt, je vous donnerai la parole aussi avant de nous quitter. Quel est en ce moment votre sentiment, comment on se sent quand on a failli avoir le prix, un des prix les...
Triste. Et contente pour Brigitte Giraud, mais à la fois, c'est l'ambivalence.
Est-ce que vous y avez cru jusqu'au bout?
Ah non, j'y ai pas cru, on n'y croit jamais, c'est pas ça, mais on est triste quand même.
Est-ce que, Isabelle Desesquelles, vous, c'est quelque chose qui vous a porté d'avoir le prix Fémina?
Fémina des lycéens. Oui, certainement, ça porte parce que c'est vrai qu'en plus, le regard des lycéens, on ne triche pas avec eux. C'est le livre juste qui fait que, ou pas, on est là. Maintenant, je ressens exactement ce que dit Monica. Oui, il y a la tristesse, il y a le fait que il y a une nécessaire mise à distance de toute façon, et puis surtout il y a l'appel du prochain texte, l'appel du prochain j'ai envie de dire être de fiction, de réalité ou les deux qui est là, qui nous attend. Et c'est l'essentiel, évidemment.
Et le public qui est en face de vous aujourd'hui et qui fait la queue pour les signatures, est-ce que c'est quelque chose qui vous porte toutes les trois ? Est-ce que ça,
alors,
vous en avez
après, je donne la parole à Sylvie Germain. Alors, pour moi, je ne peux même pas me retenir de répondre tellement oui, évidemment. Et en cela, la foire de Brive reste quand même un lieu quand même particulier, il faut bien le dire. Hein. Moi, je suis arrivée ce matin. Quand je suis entrée, il y a comme ça un mouvement de foule. À chaque fois, année après année, je me formule. Ah, décidément, ça porte bien son nom de foire. Mais on est très heureux qu'il y ait beaucoup de monde, qu'il y ait beaucoup de flux. Et oui, bien sûr, c'est important. Pas quand on écrit, pas au moment d'écrire. Je ne peux pas parler au nom des autres, mais moi, je n'y pense pas. Je suis happée, je dirais, absorbée par ceux qui me demandent de les écrire, de les trouver. Mais évidemment, quand le texte est là, quand le livre est imprimé, j'ai envie de dire ce qu'il le désire, en tous les cas, le mien le plus cher, c'est qu'il aille dans le plus de mains possible et sous le plus de regards et peut-être encore plus de mémoire. Qui le liront et qui le garderont avec eux.
Et Sylvie Germain, est-ce que vous avez ce lien avec le public, livre après livre, vous qui êtes aussi extrêmement sollicité, lu, étudié en classe, est-ce que vous avez besoin, vous êtes... on va pas revenir sur le petit épisode malheureux.
Je reviens sur le verbe que vous avez employé, est-ce que ça vous porte ? Alors là, pas du tout. Je ne prendrai pas ce mot, mais que ça me touche, oui. Parce que chaque fois, pour le coup, c'est le visage. Parce que parler, les lecteurs, les lectrices, le public, c'est très abstrait. On ne se rend pas trop compte qui vous lit. Mais quand vous voyez des gens qui viennent vous parler, vous voyez leur visage, c'est des moments très brefs, c'est très passager. Ça peut sembler très superficiel, on échange quelques mots, mais il y a quelque chose en même temps de très, très humain, très amical, très simple, fraternel, sororel, etc., qui va se passer. Après, oui, il y a des rencontres, et parfois des rencontres qui sont marquantes, par exemple des interventions dans des prisons, des interventions aussi dans des lycées, des interventions dans des lieux différents, ou tout simplement dans des bibliothèques. C'est des publics très différents avec des démarches. Il y en a qui ne l'ont pas choisi. Hein. Les lycées, ils n'ont rien demandé, les lycéens. Et parfois...
Ils l'ont choisi, quand même.
Oui, non, mais je veux dire, quand on intervient dans un lycée à la demande d'enseignants ou de documentalistes, il y en a, on voit bien, d'ailleurs, ils sont au fond de la classe. Mais à chaque fois, ce qui me frappe, et ce qui frappe aussi les enseignants, et enseignantes, parce que c'est souvent des femmes, j'ai remarqué, c'est que des élèves qui sont en général en classe un peu poussifs ou chien fou, ou au contraire à ronronner dans un coin et pas très flambant dans la matière, qui posent les questions les plus pertinentes, qui font monde de curiosité. Et là, on devine, ils sont nombreux, des jeunes, des enfants, des élèves, qui ne trouvent pas vraiment leur place dans le système scolaire. Donc, chacun se débrouille comme il peut. Il y en a en s'endormant un peu, d'autres, au contraire, en se rebellant. Et là, comme c'est un peu hors du système, un petit peu à la marge, ils vont oser poser des questions. Et c'est ça qui est beau, vous voyez. Dans les prisons aussi, on peut être très, très étonné des réactions et de questions posées par certaines personnes... en général, qui n'ont jamais lu d'ailleurs, hein, qui ont un vocabulaire assez simple. Je me souviens dans des prisons, au bout d'un moment, et pourtant, d'instinct, j'avais simplifié mon vocabulaire, je faisais des phrases assez... Et il y avait des gros durs. Hein. Il levait la main, il disait « Madame, ça veut dire quoi le mot, là ?» Et c'était des mots très, très simples. Mais ils redevenaient comme des enfants. Et il y avait quelque chose de déchirant, parce que là, ça serait un autre sujet de débat, l'importance de la langue. Et quand on prive les gens de connaissance et d'une maîtrise de la langue, on les met dans un état d'extrême fragilité et donc de violence aussi. On peut faire aussi ce lien avec la violence, mais ça sera un autre débat.
Alors je donnerai juste la parole à Monica Sabolo, qui après malheureusement on va devoir rendre, sauf si vraiment une question que vous attendiez depuis, non ? Sinon, vous pourrez les poser en tête à tête aussi sur les stands. Monica, puisque votre livre est extrêmement plébiscité et a beaucoup de succès, est-ce que ça vous console quand même un peu d'avoir ce public auprès de vous?
Non, mais bien sûr, et je dirais exactement comme Sylvie, ça me touche, en fait, ça me touche très profondément. Ouais.
Merci beaucoup. Donc, je vous invite à poursuivre cette discussion sur le stand des éditeurs. Merci.